France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il faut payer pour avoir un toit au-dessus de la tête. C'est un constat quasi universel, du moins chez celles et ceux qui n'ont pas le privilège d'avoir leur propre maison. Chaque mois, nous déboursons une somme conséquente, parfois la moitié, voire plus, de ce que nous gagnons pour simplement pouvoir vivre et dormir en paix. Ce n'est pas une dette que l'on doit à l'univers, mais à des particuliers ou des corporations plus riches que nous, dans une actualisation directe de la hiérarchie économique propre au capitalisme. Les enfants, eux, dans la majorité des cas, n'ont pas à se soucier de ces considérations financières. Ils ne payent pas de loyer, ne payent pas de taxes, ne touchent pas de salaire et ne remboursent pas de prêts. Pourtant, selon le dramaturge anglais Edward Bond, eux aussi doivent payer un loyer, simplement pour exister, pour vivre dans le monde. Ce prix à payer, c'est celui de la scandaleuse injustice du monde, celle que l'enfant voit et subit dans son innocence radicale, et que nous, les adultes, ne voyons plus. Là repose le but du théâtre de l'extrême d'Edward Bond. Donner à voir, ou même faire vivre cette injustice corruptrice aux spectatrices et aux spectateurs, pour libérer nos imaginations en nous confrontant à la violence et à la cruauté d'un monde dans lequel survivent encore des îlots d'humanité. Ce numéro de Tout arrive de Marc Voinchet, réalisé par Doria Zénine, célèbre le retour de Bond sur le devant de la scène en 2003, avec les metteurs en scène Jérôme Hankins et Jean-Pierre Vincent, ainsi que le dramaturge Jacques-Pierre Hamet et le philosophe et critique de théâtre Bruno Tackels, sans oublier évidemment Edward Bond lui-même. Combattre une raison meurtrière, pourfendre l'intellectualisme académique et aller vers un théâtre qui confronte directement à un monde injuste et violent, tel est le programme à l'horizon de cette discussion. Une émission diffusée pour la première fois le 22 septembre 2003.
Tout arrive aujourd'hui avec Jacques-Pierre Hamet, Jean-Pierre Vincent, Jérôme Hankins et Edward Bond. Tout arrive en compagnie de Bruno Tackels, Corinne Lalou, une émission préparée par Stéphane Grant. À la prise de son, Alexandre Dang, une émission réalisée par Doria Zénine. Bonjour, Edward Bond.
C'est ça.
Hello.
Bon, je vois.
Bonjour.
Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Tout arrive. Je sais que votre présence devant des micros de radio est rare. Vous nous aviez fait l'insigne honneur de venir nous retrouver, nous voir la première fois alors que vous étiez à Alfortville avec des enfants et que nous avions fait l'émission avec vous et tous ces enfants qui jouaient une de vos pièces. On sait que les enfants, c'est extrêmement important pour vous. Nous y reviendrons parce qu'il y a plusieurs actualités qui vous concernent, Edward Bond. Il y a la pièce « Si ce n'est toi » au Théâtre de la Colline, mise en scène par Alain Françon. Le texte est édité aux éditions de l'Arche. Et puis il y a une somme qui s'appelle « La trame cachée » aux éditions de l'Arche, qui là est un gros livre de courts textes qui s'entremêlent, parfois se contredisent presque, mais font avancer toute une réflexion que vous portez sur le théâtre depuis un grand moment. Je vois que vous me faites un signe pour me dire que rien ne se contredit. Justement, nous irons et nous en parlerons tout à l'heure avec vous, Edouard. Donc, première question peut-être, pour vous présenter un peu différemment que de dire que vous êtes le grand auteur de théâtre que l'on connaît. Bruno Tackels me disait tout à l'heure, Edward Bond, au fond, c'est un vieux sage africain. Est-ce que vous semblez satisfait de cette définition pour vous présenter, Edward Bond?
Et je précisais qu'il me parle de moi, sauf
pour on lui pose des questions.
Voilà, Jérôme Hankins traduit, Edward Bond.
Thank you.
Merci.
Merci.
Voilà ce qu'on a. Que puis-je dire d'autre ?
Qu'est-ce que vous vouliez dire, Bruno Taquet ?
Je voulais évidemment revenir en disant ça à votre combat contre la raison, contre la raison, avec la raison. C'est pour ça que j'employais la notion de sagesse, parce que il me semble que tout votre travail de dramaturge, j'ai votre réflexion sur votre travail de dramaturge, je pars de cette idée que la raison est absolument meurtrière et qu'en même temps, c'est à partir d'elle que nous devons lutter. Edward Bond.
Oh, yeah, I mean, that's a huge remark.
C'est une remarque vaste, énorme.
It's a big question. I mean,
une question très profonde. Avons-nous trois jours?
On a une heure et demie quand même. Hein.
I am not against reason.
Je ne suis pas contre la raison. Je ne m'oppose pas à la raison.
That's absolutely essential to say that.
Et il faut que je dise ça, c'est essentiel. Je suis aussi un matérialiste, c'est très important. Et il faut que ces choses, deux choses-là soient comprises.
I start from my own bewilderment.
Je commence avec mon propre étonnement,
which is,
mon ahurissement.
I read once, I think it was Adorno, the philosopher.
J'ai lu un jour, je crois que c'était le philosophe Adorno,
who said Auschwitz was the result of the Enlightenment.
Qui a dit qu'Auschwitz était le résultat des Lumières.
I find this a very disturbing remark.
Et je trouve cette remarque très troublante.
But a man doesn't say this lightly.
Mais quand un homme dit ça, ce n'est pas à la légère. Et il fallait que j'essaye de comprendre ce que ça voulait dire. Pour moi, c'est une affirmation rationnelle. Ça a du sens, ça veut dire quelque chose. Et donc, il faut découvrir ce qu'on est en train de faire, le comprendre. Quand on parle de la raison.
I would avoid the word wisdom.
J'aurais envie d'éviter ce mot sagesse.
It is too mystical for me.
Ça a une dimension trop mystique pour moi. Je parle de deux choses. D'une part la raison, d'autre part l'imagination.
Again, I mean, all these words are very dangerous.
Mais tous ces mots, évidemment, encore une fois, sont dangereux.
And they have to be constantly redefined.
Et il faut constamment les définir à nouveau.
You have to ask yourself always with human beings, why do they have this particular ability? What is reason? What is imagination?
Quand on traite des êtres humains, il faut se demander comment, pour qu'est-ce que ces capacités que sont la raison et l'imagination?
Einstein, who was a very rational person, said,
Einstein était une personne très rationnelle.
Imagination is more important than reason.
Et il a dit l'imagination est plus importante que la raison.
I think all these things are understandable.
Je crois qu'on peut comprendre toutes ces choses.
And also, you know, one can say why things go wrong.
Et on peut aussi définir pourquoi les choses vont mal.
Why it is that the Enlightenment leads to Auschwitz.
Et pourquoi les Lumières ont mené à Auschwitz.
One can say why that is. To be able to explain why something is
on peut dire ce pourquoi.
Mean that you can control it,
mais savoir pourquoi, ça ne veut pas dire qu'on peut maîtriser l'événement
that you can solve the problem.
Ou résoudre le problème. C'est là le danger.
History gives us no guarantees anymore.
L'histoire est sans garantie maintenant.
And really that's the area I deal with.
Et voilà la zone où je travaille.
Et il ne faut pas confondre, nous y reviendrons tout à l'heure avec vous, Edward Bond, il ne faut pas confondre l'imagination, dites-vous au lecteur de la trame cachée, il ne faut pas confondre l'imagination avec l'imaginaire. Ça n'a rien à voir, mais nous irons plus avant dans ces mots qui vous servent, Edward Bond, à définir votre travail, votre écriture. Il y a à la fin de la trame cachée un glossaire où vous essayez, avec la complicité de Jérôme Hankins, de mettre au point justement quels sont les mots du dramaturge, de l'auteur de théâtre que vous êtes. Je voudrais vous présenter Jacques Pyramette, qui a un point commun avec vous, c'est de s'intéresser à Brecht, mais pas seulement à Brecht, justement, et il y a un petit passage consacré, deux passages consacrés à Brecht dans la trame cachée, ça nous y reviendra, Edouard Bond, avec vous. Mais il y a un point commun avec vous, Jacques Pyramette, c'est qu'il a été mis en scène en tant qu'auteur de théâtre par un metteur en scène que vous connaissez bien, qui est Alain Françon. Jacques Pyramette.
Oui, c'est d'ailleurs très lié. Le théâtre est une famille et qui agit profondément, même quand on n'est pas joué, même quand on ne va pas tellement au théâtre, mais qui, à partir de l'expérience qu'on a eue avec un très bon metteur en scène en tant qu'auteur, qui vous permet effectivement de vous protéger de cette espèce de noirceur dans laquelle est prise la société actuelle. C'est-à-dire que c'est une famille qui, comme dans les murs de la Cerisée de Tchekhov, vous protège de cette espèce de glissement vers l'abîme que moi je ressens tous les jours quand je regarde la société actuelle.
Vous m'avez dit, ne le cachons pas, que vous étiez impressionné de vous retrouver à côté d'Edward Bond. Pourtant, vous n'êtes pas farouche, mais vous étiez impressionné. Vous connaissez très bien son théâtre, vous avez presque tout vu.
Oui. J'ai eu un choc quand Alain a mis en scène la trilogie sur la guerre au Théâtre de la Ville. D'abord parce que il ne trichait pas avec le texte, il n'essayait pas de l'amoindrir, il n'essayait pas de le rendre plus rationnel, ce qui est en France une grande qualité. Il n'essayait pas non plus d'enjoliver, de le rendre plus séduisant pour un public qui serait plus débonnaire. Et ce qui avait provoqué le soir où j'étais là, quelques rangs de spectateurs qui étaient partis. Et ça m'avait rendu plutôt joyeux. C'est-à-dire qu'il y avait un malentendu avec certains spectateurs, pas avec d'autres. Ce malentendu, je le bénissais.
Vous étiez effrayé de voir des gens partir aussi en grappe, comme certains partent en grappe devant des films de Manuel de Oliveira en projection officielle à Cannes. Hein, c'est ou Kiarostami, vous savez.
Parce qu'ils attendaient un autre théâtre. Et en fait, ils étaient devant un vrai grand théâtre. Et j'ai toujours pensé qu'une partie du public français ne sait toujours pas ce qu'est le théâtre. Ça, c'est évident.
Edward Bond, une partie du public français ne sait toujours pas ce qu'est le théâtre.
Pourtant, vous semblez lui accorder beaucoup au théâtre français, Edward Bond, par rapport à ce qui se passe en Angleterre.
Edward Bond. Germaine Kintz, qui traduit en direct. Tout arrive.
Oh, that's very kind.
Merci d'avoir de ces remarques.
I don't know what theatre is about.
Je ne sais pas ce que c'est que le théâtre, ce que ça veut dire.
It is something that one searches.
Je crois que c'est toujours l'objet d'une quête.
It is right that, you know, one has a sense of darkness and foreboding.
C'est vrai qu'on a cette impression d'obscurité, de pressentiment.
But I insist that these, for me, these things are understandable.
Mais ces choses, on peut les comprendre.
Can I spend just a little time trying to explain?
Puis-je prendre un petit bout de temps pour expliquer ça?
If I try to put it this way,
je vais essayer de le formuler ainsi.
Can you imagine two cars?
Peut-on imaginer deux voitures?
And they have an accident.
Qui se rentrent l'une dans l'autre, qui se rentrent dedans.
Can you imagine that as a result of the accident, you would have a better car?
Peut-on imaginer que le résultat de cet accident, c'est qu'on va obtenir une meilleure voiture?
No.
Non.
Stop your suspense for you.
Non, non, c'est pas possible.
It is not possible. And yet,
et pourtant,
you are the product of accidents.
Nous sommes tous le produit d'accidents. La peau, les yeux, le souffle,
le sexe,
the way you walk, la manière dont on marche.
Is absolutely a product of accidents.
Tout ça est produit par des accidents.
That is the way evolution works.
Et c'est ainsi que fonctionne l'évolution.
It produces accidents.
C'est une production d'accidents.
You know, there's nobody thinking, well, let's try this.
Personne ne pense, on va essayer ça.
This would be a nice way of improving the
eye. Ça serait une bonne manière d'améliorer l'œil.
It is purely by accident.
Tout ça se produit par accident.
So what makes the accidents successful?
Alors qu'est-ce qui rend un accident? Qu'est-ce qui donne du succès à un accident? Qu'est-ce qui le rend productif?
It's the site.
Ce que j'appelle le site, S-I-T-E.
The accidents get tested.
Un deuxième mot du glossaire.
On éprouve les accidents, il y a une épreuve des accidents. C'est dans le site qu'on teste par l'accident.
Jacques Pyramette.
Oui, d'abord, je voulais dire une plaisanterie, c'est que l'accident génétique qui nous vaut Edward Bond était plutôt un accident heureux. Et que, ensuite, Brecht expliquait toujours à ses comédiens qu'il fallait qu'ils réfléchissent justement toujours aux accidents de voiture à un carrefour, puisqu'il avait toujours cet exemple de que pensent tous les gens qui sont ceux qui sont dans la voiture, ceux qui sont sur le trottoir, que pense le flic qui arrive, que pense l'infirmier. Et ça, c'était le sens même du théâtre. Et donc, l'accident est capital.
Alors, Jacques Pyramet, vous publiez La maîtresse de Brecht, roman chez Albin Michel, qui est déjà en bonne piste sur la liste des Goncourt. Vous n'êtes pas, vous n'êtes
pas. C'est pas un accident. C'est pas le résultat d'un accident. C'est ça, justement, la chose. C'est là.
We are not the product of evolution.
Nous ne sommes pas les produits de l'évolution.
Evolution has something which I call it's a truth site.
L'évolution a ce que j'appelle le site vérité, le site de la vérité. Il y a une nécessité dans l'évolution.
It's obliterated.
Si ça ne marche pas, les choses sont effacées.
Nature has a permanent Auschwitz running.
La nature a une sorte d'Auschwitz en marche.
The point is this. Nature is an area of truth. Human beings are an area of truth and lies.
La nature est une zone de vérité, mais les êtres humains sont une zone de vérité et de mensonge.
It's entirely different.
Ce qui est très différent, entièrement différent.
Human beings never have any truth of any significance.
Les êtres humains ne possèdent jamais une vérité.
Unless it is accompanied by a lie.
À moins qu'elle soit accompagnée d'un mensonge.
There is no way in which you can have a significant and important human truth.
Il n'y a pas moyen d'avoir une vérité humaine de poids sans que ce soit au prix d'un mensonge.
That is why you have to move from something called accidents to creativity.
C'est pourquoi il faut aller des accidents à la créativité. Il faut passer de
creativity. Again, I use a dangerous word.
Alors, la créativité, c'est encore un mot dangereux.
But it's in some sense the establishment of a truth.
Mais c'est une manière d'établir, de fonder une vérité.
But human beings have two abilities.
Mais les êtres humains ont deux capacités.
They can invent.
Ils savent inventer.
And they can create.
Et ils savent créer.
And the two do not come easily together.
Mais les deux ne se rejoignent pas facilement.
And that is the corruption of reason.
Et ça, c'est ce qui arrive quand la raison est corrompue.
If you look at any society,
considérez une société donnée.
What is respectable in that society,
ce qui est respectable dans cette société
is the lie,
est le mensonge,
and not the truth.
Pas la vérité.
It's as simple as that, and it is the function of art, and above all of theatre.
Et c'est la fonction de l'art et par-dessus tout du théâtre.
To try to establish human truth.
D'essayer d'établir, de fonder des vérités humaines.
Now that's reasonably clear.
C'est assez clair, j'imagine.
And if we could grasp that, we would have made some. Useful distinctions.
Si nous pouvons saisir ça, nous aurons fait des distinctions utiles.
It produces other problems.
Mais évidemment, d'autres problèmes en résultent.
Then one needs to define, but exactly what is creativity as opposed to mere invention.
Il faut définir ce que c'est que la créativité, par exemple, par rapport à l'invention.
Again, this is explainable. You said.
Encore une fois, c'est explicable. Vous avez dit.
There were things in that book which were the hidden plot,
qu'il y avait dans la trame cachée
which are
des choses qui se contredisent.
They are not.
Elles ne sont pas contredisent pas.
It is that we do not know how to make the connections.
C'est que nous ne savons pas faire les liens, les connexions, les rapports.
And I feel very much that we need now a new sort of Copernican revolution.
Nous avons besoin d'une nouvelle révolution copernicienne.
The first one is about the way we look at the cosmos.
La première, évidemment, concerne la manière dont nous regardons le cosmos.
And the second one is Kant, and he has a Copernican revolution about the way we relate to the cosmos.
La seconde a trait à Kant et la manière dont lui aussi parle de la manière dont nous sommes en rapport avec le cosmos.
And we need a new one about ourselves.
Et il nous faut trouver quelque chose de nouveau par rapport à nous-mêmes, comprendre.
Specifically about ourselves, and I think that is the present function of theatre.
Et je crois que c'est le rôle présent du théâtre.
Jacques Pyramet, c'est bien une histoire de mensonge, cette maîtresse de Brecht, entre autres une grosse histoire de mensonge dans le Berlin-Est de l'après-guerre où Bertolt Brecht revient et où il va se retrouver, la Stasi va lui mettre dans les pattes une jeune femme charmante, actrice, Maria Eich, qui est une synthèse de toutes les maîtresses possibles qu'a pu avoir Brecht. Si vous avez fait ce livre, souvent, Edouard Bond lui parle du théâtre par rapport à l'avenir. Et que c'est entre autres, le théâtre a pour projet de parler aussi de l'avenir. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, faire effort d'imagination, mais pour revenir sur un épisode du passé qui est très important dans l'histoire de l'Europe, la fermeture de l'Allemagne et cette vie de Brecht et ce portrait de femme allemande de l'Est.
Il y avait d'abord le fait que, après le nazisme, donc après Auschwitz, il fallait bien construire quelque chose, essayer de construire quelque chose. Et on a, enfin, les intellectuels, de ceux d'avant ma génération, avaient tous pensé que l'intelligence de Brecht, on en avait besoin, comme on avait besoin de celle d'Adorno. On avait besoin de l'intelligence de tous ceux qui avaient été confrontés directement avec Hitler. Et l'acharnement de Brecht à construire un nouveau théâtre qui se voulait marxiste était un espoir incroyable. Et on a vu assez vite que ça a mal tourné. Ça a mal tourné parce qu'il y a eu tricherie et mensonge du côté de Brecht, quelque part. Quand il a envoyé une lettre d'allégeance au gouvernement pour dire qu'il avait bien fait de mettre des chars de mettre des chars dans Berlin pour mater une révolution ouvrière, c'est une infamie.
Oui, et puis croyez bien à mes sentiments socialistes sincères, hein, la formule de la lettre de la fin.
Il veut, pour garder son outil de travail, le Berliner Ensemble, avaler toutes les couleuvres du gouvernement officiel, c'est une infamie. Et moi, personnellement, je trouve que son travail, aussi beau soit-il sur la scène, quand il fait des adaptations du Précepteur, de Lenz, quand il fait des adaptations du Ourfaust de Goethe, tout ça n'est qu'à moitié convaincant, franchement. J'ai l'impression qu'il s'enferme dans un système rationnel, de plus en plus desséchant. Il y a chez lui quelque chose de ça. Donc, ça m'a posé un problème, parce que moi, petit Français, j'ai été élevé par des gens qui se réclamaient quand même de lui, Jean Villard, etc. Toute la décentralisation française vient quand même... La racine, le grand chêne, c'est quand même Bertolt Brecht. Et donc, maintenant, on n'a même plus ça, souvent. On n'a même plus cette référence, puisque les gens disent Brecht égale marxiste, égale erreur...
Alors que vous le montrez d'un marxisme, en même temps, relativement léger. Léger. Hein.
Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Je le montre comme plutôt le verrait Tchekhov, c'est-à-dire que aimant les femmes, le fric, la bière, que tout le monde soit d'accord avec lui, même quand il a tort. En fait, il y a quand même comme ça, chez lui, de personnellement désagréable.
Alors, cela dit, ça n'est pas tant un roman sur Brecht, enfin, que sur Brecht, qu'un roman sur cette jeune femme, cette jeune actrice qui va jouer Antigone Maria Eich, que vous inventez. Alors, vous n'allez quand même pas jusqu'à reconstruire sous son personnage la thèse qui avait été défendue par son biographe américain John Fuji, comme quoi les maîtresses de Brecht étaient en fait les véritables auteurs ou presque de ces pièces ou de ces textes. Bon, ça pointe ça dans votre livre.
Non, bon, il y a eu l'affaire des pillages. Ses collaboratrices ont énormément travaillé pour lui. Il les a pas rétribuées, c'est évident. Bon, c'était sur le plan financier et en tant qu'homme d'affaires, quelqu'un de sans doute assez tyrannique
et détestable. Oui, il faut rappeler que Courteval avait 12% seulement de droits sur l'opéra de Katsu et qu'encore il l'avait menacé de ne rien avoir du tout. Hein. Oui. Il lui avait dit sinon je déclare l'opéra des gueux, 18e siècle, et tu préfères quoi, 100% de rien ou 12% de ça, bon, entre autres.
Oui, mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer une personne venant de l'extérieur avec une sorte de bonne volonté, comme un peu candide, qui vient dans un milieu qu'elle aime. C'est une bonne comédienne, considérée comme bonne comédienne à Vienne.
Elle a un cœur ardent et pur.
Elle a un cœur ardent et pur. Et elle arrive au théâtre avec un cœur ardent et pur, elle s'aperçoit que, jour après jour, on lui demande d'espionner Brecht. Brecht lui-même se montre souvent sous un mauvais jour, que les querelles entre les comédiens sont assez terribles, et que au fond, le milieu culturel, au lieu de la porter, finit par la grignoter jour après jour. Et ces sévérités affectives, sévérités artistiques s'effondrent les unes après les autres.
Oui, puis ce sont des gens que vous décrivez, en fait, qui sont prisonniers de tout, de leur passé, autant Brecht que Maria Eich, que l'officier de la Stasi qui diligente à Maria Eich d'aller espionner Brecht. On lui fait comprendre qu'on peut la faire chanter, puisqu'elle avait un père nazi, un mari nazi qui meurt au Portugal.
On met tout le monde dans une forme de chantage.
Et puis celui qui envoie cette femme coucher avec Brecht, hein, en plus, c'est quand même ça, ça la mission, c'est lui qui a envie de coucher avec elle et qui ne le fait pas, et qui finalement mentira à son propre devoir, qu'il n'aura de cesse de lui dire, écoute, finalement, ce monde-là dans lequel on vit, c'est pas possible. Il faut que tu passes à l'ouest.
C'est un monde gangréné, c'est un monde pourri par la suspicion, et pourri par à la fois un mélange d'ambition, de suspicion et de sentiments en distorsion.
On est très loin de la géographie brechtienne habituelle, cela dit. Oui. Bruno Tackels.
Alors, derrière la figure de Brecht, qui est très beau dans votre livre, c'est qu'il y a une méditation au fond sur la place du théâtre dans la société. C'est un livre d'aujourd'hui, en fait, qui, d'une certaine manière, dialogue avec les réflexions d'Edward Bond. Par exemple, l'un des personnes qui est chargée de faire travailler la maîtresse de Brecht, a une analyse extrêmement fine de la réalité du théâtre, au fond, à quoi ça sert? Est-ce que nous devons continuer à entretenir cet espace qui sert pas à grand chose, où ces gens sont au fond un peu bizarres? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'ils sont canalisables? Il va même jusqu'à dire, au fond, c'est une espèce d'asile de fous qu'une scène de théâtre.
Tout à fait.
Jacques Pirmette.
Oui, et puis il y a d'un côté, il y a Brecht dans ses carnets, dans son journal de travail, se rend compte que, comme au début de sa carrière, les officiels et toutes les notabilités politiques veulent au fond retourner à un vieux théâtre poussiéreux, comme il y avait au XIXe siècle, et que cette vitrine officielle, en fait, on n'est pas du tout content de ce qu'il propose, et on voudrait en gros qu'il donne cette espèce de vieux théâtre poussiéreux qui s'est mis à démolir quand il avait 25 ans, quand il était un joyeux anarchiste.
Vous avez de très belles pages sur justement la description de ce théâtre allemand. Qu'est-ce que c'est que le théâtre allemand, ce théâtre poussiéreux où il y a des cantinières, des histoires d'adjudants, des soldats, des tambours, des flûtes, enfin cette espèce de monde au fond très kitsch, très boursouflé, qui au fond n'est en prise avec aucune réalité.
Oui, et puis il s'aperçoit que les ouvriers viennent plus. Il dit qu'il n'y a plus que 17% du public qui est ouvrier. On ne parle plus de nous dans les journaux officiels. C'est un échec absolu quand on regarde par rapport à ce qu'attendait le gouvernement de la RDA. Donc il y a un moment où, visiblement, il avait quand même son ticket de train pour la Suisse.
Oui, des comptes en Suisse partout, en plus. Oui. Bertolt Brecht, Jacques Pirmette. Alors, il faut dire que c'est donc pas tant sur Brecht aussi que sur une femme. Qui a la vie sauve, hein. Il n'est pas un mystère que les maîtresses de Brecht n'ont pas eu de vie très longue pour beaucoup d'entre elles. Là, bon, c'est le roman, vous la sauvez, et ça permet aussi de raconter un Berlin des années 60, Berlin est des années 60 et un Berlin ouest des années 60.
Oui, parce que, bon, il y a des maîtresses, la plus émouvante, c'est Ruth Berlau, qui subissait des électrochocs, qui était tout le temps en dépression, alcoolisme, électrochocs. C'était un peu, quand même, ce qui se passait le plus souvent. Et puis, Brecht les abandonnant, d'ailleurs, aussi bien affectivement que financièrement. Enfin, tout ça n'est pas très sympathique. Et elle est sauvée par son agent traitant de la Stasi, quand même. C'est un peu le paradoxe du livre, qui dit, maintenant, il faut s'en aller. Je te facilite tous les papiers pour que tu passes à l'Ouest. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient professeure. Elle veut s'occuper des enfants. En fait, elle veut retrouver sa fille. Elle veut s'occuper des enfants. Et faire de la pédagogie transparente sur le plan moral.
Elle prend, elle, réellement des distances, puisque c'est un mot très brechtien, des distances. La distanciation, vous tenez à les prendre, vous, hein, Edward Bond, pour terminer cette première partie. Je sais que vous ne voulez pas parler forcément trop de Brecht, mais vous prenez des distances très claires, hein, dans la trame cachée. Et même vous dites, au fond, ça m'agace un peu quand on me parle de Brecht en parlant de moi, parce que j'ai pas grand-chose à voir avec lui. Je prends des choses chez lui, mais je ne prends pas tout l'héritage, loin de là, hein, Edward Bond.
No. I think that would be I can't say corrupt, it would be idiotic.
Je ne vais pas utiliser le mot corrompu, ça serait stupide.
You know, if Brecht had a miserable or unhappy life.
Si Brecht a eu une vie triste, désagréable, dure.
So did the victims of the regime that he served.
On peut dire que les victimes du régime qu'il a servi aussi.
I need as a writer, to go back to something much more fundamental.
En tant qu'écrivain, je dois revenir à quelque chose de beaucoup plus fondamental.
What does he initially get wrong?
C'est-à-dire, au départ, à la base, où est-ce qu'il se trompe?
What he gets wrong is disaster.
Et cette erreur qu'il fait à la base est un désastre.
What human beings are.
Il comprend de travers ce que sont les êtres humains.
And to do this means that you do not have the truth part of that duality, you have the lie part.
Et en faisant ça, on n'a que la partie mensonge, pas la partie vérité.
Once you realize this, I mean, you realize what, for instance, like Mother Courage is a profoundly dishonest and sentimental play.
Mère Courage est une pièce malhonnête et sentimentale.
And it's put on as if it's some great masterpiece.
Et on la met en scène comme si c'était un chef-d'œuvre qu'on devrait révérer.
It is a betrayal of humanity.
Non, c'est une tromperie par rapport à. C'est une trahison de l'humanité.
This has to do with my concern with young audiences.
Et tout ça a trait à cet intérêt que j'ai pour les jeunes publics, pour les jeunes gens qui vont au théâtre.
On y revient là. Un petit mot, Jacques Carmette, et c'est l'heure du journal.
Oui, c'est exactement en fait ce que pense Brecht dans son journal. À un moment, il regarde le public devant Mère Courage et dit « Mais ces gens applaudissent quelqu'un qui n'est pas du tout une héroïne ». Donc lui-même sentait qu'il y avait une distorsion incroyable dans ce qu'il écrivait.
Nous y revenons, si vous voulez, un point encore là-dessus. Après les journaux de 12h30, et nous parlerons de la pièce « Si ce n'est toi » et puis de la trame cachée que vous publiez aux éditions de l'Arche. Et puis Jean-Pierre Vincent nous rejoindra également dans ce studio. Il est 12h30 sur France Culture. Tout arrive continue jusqu'à 13h30. Nous sommes toujours en compagnie de l'homme Edward Bond, avec Jérôme Hankins, qui traduit, entre autres, cette trame cachée aux éditions de l'Arche, qui travaille beaucoup avec Edward Bond, Jacques Pierramet, la maîtresse de Brecht, chez Albin Michel, je ne l'avais pas précisé, est toujours parmi nous, et puis nous a rejoint Jean-Pierre Vincent, qui va monter 11 débardeurs, c'est dans le cadre du théâtre de la colline hors les murs, et cela concerne ce dont nous avions déjà parlé dans une précédente émission avec Edward Bond, la question des enfants et du théâtre. Nous y revenons dans un moment. Edward Bond, je vois que ces questions de Brecht vous ont mis un peu en colère. La colère est passée.
aesthetically angry, if you like.
Je suis en colère esthétiquement, si vous voulez, d'un point de vue esthétique.
It troubles me.
Ça me trouble, yeah, ça me gêne.
Mais qu'est-ce qui vous trouble? C'est qu'il y a eu du mensonge, au fond, qu'il y a eu à un moment donné une parole donnée, prise à Brecht comme étant parole d'évangile, et que, à la loupe, ensuite, il n'y a effectivement pas de quoi prendre cette parole-là comme parole d'évangile. Selon vous,
c'est une colère qui est fondée philosophiquement.
Oui, je voudrais qu'il réponde, Edward Bond.
What his personal characteristics are.
Sa personnalité, ses caractéristiques personnelles
not really my concern,
ne m'intéressent pas vraiment, bien que je comprenne qu'elles sont intéressantes.
Book is obviously fascinating.
Le livre de M. Hammett est manifestement fascinant.
This is why I say this provocative thing, like he is the theatre of Auschwitz.
Évidemment, je dis ces choses provocatrices, comme quand je dis que c'est le théâtre d'Auschwitz qu'il a écrit. C'est évidemment un paradoxe.
It is something that, he would have said, but, this is exactly the opposite of what I want.
Brecht aurait dit, mais c'est le contraire que ce que je voulais.
I can't go into these things now, but
je ne peux pas entrer là-dedans.
He makes a fundamental mistake about what human beings are.
Il fait une erreur fondamentale sur ce que sont les êtres humains. Et c'est une erreur qui est liée aux Lumières.
Everything follows from that.
Et tout en découle. Tout s'en suit.
It is this thing that people are essentially rational and are seeking their rationality.
Donc il dit que les gens sont essentiellement rationnels et cherchent leur rationalité.
My point about this is simply that reason has no values other than purely instrumental values.
Ma réponse est que la raison n'a pas d'autres valeurs que les valeurs instrumentales.
They don't have human values, and for this reason, for instance.
Ce ne sont pas des valeurs humaines.
He says, well, you mustn't deal with tragedy.
Et donc il dit, il ne faut pas écrire ou traiter avec la tragédie.
One example. If you do not have a conception of tragedy and the practice of theatrical tragedy, you cannot create humanness.
On ne peut pas créer l'humanité sans traiter de la tragédie et du tragique. Et tout ceci revient à l'origine même de l'esprit humain. Et ce qui fait que l'esprit humain sort de l'évolution pour entrer dans l'histoire. Et je pars donc de ce point de vue fondamental.
I can put this briefly in three or four sentences.
Brièvement, en quelques phrases.
There will be questions about it, but
bien sûr, cela soulèvera des questions, mais pour l'instant, je ne peux pas aborder ces questions.
Instead of talking about a psychological mind or a genetic mind,
au lieu de parler d'un esprit psychologique ou d'un esprit d'origine génétique, je parle de quelque chose qui s'appelle le moi antérieur, l'esprit du moi antérieur, du premier moi. Et c'est l'esprit du nouveau-né.
In that, there are three things.
Et dans cet esprit du nouveau-né, il y a trois choses. Il y a la reconnaissance du tragique.
The other is the recognition of the comic.
La reconnaissance du comique.
And the other is the imperative to be human.
Et la troisième chose, c'est l'impératif d'être humain.
It is because even in the first mind of the self,
même dans le premier esprit
the
du
mind
moi,
must make concepts.
L'esprit doit créer des concepts.
It must apply meaning.
Il doit appliquer du sens, imposer du sens.
And simply the necessity to apply meaning to everything is the imperative to be human.
La nécessité d'imposer du sens, c'est justement cet impératif d'être humain.
And out of that, the child creates a self.
Et à partir de là, l'enfant crée un
you
moi. Vous l'avez fait,
yes.
Marc.
Otherwise, you wouldn't have your present job.
Sinon, vous n'auriez pas votre travail que vous accomplissez actuellement.
Like smoking.
Et tous vos vices, comme celui de fumer.
Ah, oh, écoutez, vous êtes gonflé. Je n'ai pas fumé une cigarette encore du tout.
You create yourself.
Vous créez vous-même.
And this is what basically human beings are about. But
et c'est ça, les êtres humains.
We create ourselves, but in relation to a site.
Mais nous nous créons en rapport avec ce que j'appelle un site.
And the site is wherever we are.
Et le site, c'est là où nous sommes,
the problem for human
quel que soit cet endroit.
Is that the site contains, it's not like evolution,
le problème des êtres humains, c'est que, en dehors de l'évolution, à part de l'évolution qui ne contient que de la vérité, l'être humain contient vérité et mensonge. Et c'est obligatoire.
There's no way that we can be in the world without this.
Il n'y a pas d'autre
and
moyen d'être dans le monde,
yes?
Et de chercher du sens.
This is on the highest level and on the lowest level.
Au niveau le plus haut et au niveau le plus bas.
It's the ambience of humanness.
C'est l'ambiance ou le milieu de l'être humain.
It is the confrontation between lies and truths, not reason.
Et c'est la confrontation entre vérité et mensonge.
It is out of that that we create our humanness.
Et c'est pas la raison qui crée notre humanité.
Without a concept and an experience of the tragic.
Et ce n'est pas possible sans une expérience du tragique. Brecht ne fait qu'accepter finalement ce que dit Aristote. Et ça, c'est une blague, c'est une plaisanterie.
Est-ce que c'est pour cela, Edward Bond, qu'il y a dans les textes que vous publiez sous le titre La trame cachée, donc aux éditions de l'Arche, est-ce que c'est pour cela qu'il y a justement ces notes éparses sur la justice suivies des notes éparses sur l'intolérance? Et est-ce que l'écriture théâtrale alors et la réflexion que vous menez à la fois en dehors de l'écriture même théâtrale et la réflexion que vous menez dans les textes, est-ce qu'elle consiste à ce que vous essayiez de trouver l'endroit de la justice et que cet endroit de la justice, il est le théâtre? Et qu'il est le théâtre si en plus de cela, il y a les enfants. Edward Bond.
To work with young people is to return, I think, to the origins of theatre.
Travailler avec les jeunes gens, c'est en revenir aux origines du théâtre.
One mustn't be romantic about that. One wants to create theatre for adults as well.
Mais il faut éviter tout romantisme.
That creative process.
Il faut écrire pour les adultes aussi.
I give you a definition of tragedy, which is quite interesting.
Je vais vous donner une définition de la tragédie qui est intéressante et utile.
There is this whole problem about how history knows where it's going.
Il y a ce problème de est-ce que l'histoire sait où elle va?
It's like Hegel says history is blind.
Hegel dit que l'histoire est aveugle.
And Marx sort of half adopts that.
Et Marx adopte ça à moitié.
And he's ambivalent about it.
Et il y a une certaine ambivalence chez Marx.
And it is all right, human beings don't have total knowledge.
Les êtres humains n'ont pas un savoir total ou global.
They have to grope.
Il faut qu'ils tâtonnent dans l'obscurité.
Yes. This doesn't mean they're lost.
Ça ne veut pas dire qu'ils soient perdus. Il leur faut tâtonner dans l'obscurité.
The definition of tragedy is this.
La définition de la tragédie est celle-ci.
The hands of the blind man must see.
Les mains de l'aveugle doivent voir.
Mais est-ce que c'est vous, alors en l'occurrence l'aveugle, et est-ce que c'est pour cela donc que la pièce « Si ce n'est toi qui est en ce moment représentée au théâtre de la Colline, justement, se passe en 2077, je crois exactement, le 18 juillet 2077. Est-ce que vous l'avez écrite, cette pièce-là, avec les mains de l'aveugle que vous venez de décrire, Edward Bond?
Well, I think that's how we live.
Je crois que c'est comme ça que nous vivons.
But the hands are seeable, and that's another paradoxical thing. Well, one can see with one's hands.
On peut voir avec les mains.
This is
elles sont capables de voir.
But it's what and the hands can see very clearly.
Et les mains voient très précisément.
Sometimes they see clearer than the eyes.
Elles voient mieux que les yeux parfois.
It is the difficulty of the human situation.
C'est la difficulté qui appartient à la situation humaine
inhérente.
Quand j'écris une pièce, les personnages en savent plus que moi. Ils savent plus de choses sur la pièce que moi. Et quand on me demande qu'est-ce que ça veut dire, ça, je ne sais pas. Et les gens me disent, mais tu vous l'avez écrite. Et je dis, mais je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais il faut le remettre dans, le replacer dans la situation, dans le site. Par contre, ce que je peux faire, c'est parler de la logique de la situation. Et là, je pourrais parler de la logique de l'imagination. Si vous vous trompez là, vous obtiendrez Auschwitz. Et si vous ne vous trompez pas, à ce moment-là, les mains de l'aveugle deviennent utiles ou peuvent être utilisées.
Et reprécisons-le, ça n'est pas l'imaginaire, hein, à ne pas confondre.
Fantasy is something else.
Alors l'imaginaire, le fantasme, quand je parle d'une révolution copernicienne, nous utilisons de travers tous ces mots.
We don't have an adequate definition. I think that this goes. You see, well, of course, when I began to write, I was very. I always had scruples about it, but I was
quand j'ai commencé à écrire. J'avais des scrupules et j'ai commencé par lire Brecht. J'aurais été un idiot d'ailleurs de ne pas le faire.
Mais
maintenant, je crois que nous devons revenir bien plus loin, revenir à Euripide. Parce qu'Euripide posait des questions vraiment fondamentales.
Et vous dites même, vous avez dit même, Euripide serait ravi de voir ce qui s'est passé avec les enfants, par exemple, à Alfortville ou à Marseille, ou sans doute et ce que fera Jean-Pierre Vincent, justement. Pour 11 débardeurs, vous avez dit ça une fois. Euripide serait sans doute ravi de voir ce qui se passe avec mon texte et surtout les enfants.
Yes.
Alors, une question, et nous allons passer la parole à Jean-Pierre Vincent qui vous écoute. Jacques Pyramide, vous intervenez quand vous voulez. Une question tout de même, Edward Bond, vous dites, oui, quand j'écris certaines choses, il faut que j'en connaisse la mécanique précisément, mais il y a d'autres choses au fond que je ne sais pas définir. Et on sent que pour le travail que vous faites, vous aimez particulièrement, en tout cas, il y a une lettre qui semble le dire, une lettre à un scénographe, qui est une très belle lettre de reconnaissance pour le travail du scénographe. En revanche, on vous sent extrêmement circonspect, parfois avec les metteurs en scène. Vous dites qu'il faut qu'ils respectent véritablement ce que vous écrivez, les didascalies, les notes de mise en scène, parce que sinon ça ne va pas. Est-ce que par moment, vous ne vous dites pas que vous plaider pour l'imagination, la vôtre, mais qu'en est-il de l'imagination, si elle existe, du metteur en scène, selon vous? Et Jean-Pierre Vincent répondra là-dessus. Est-ce que oui ou non, et vous répondrez franchement, Jean-Pierre Vincent, est-ce que oui ou non, parfois les textes théoriques de Bond sur son théâtre ne risqueraient pas d'enfermer le metteur en scène ou pas? Je vous pose Edward Bond, et puis Jean-Pierre Vincent et Jacques Pyramide.
Non. Là,
c'est un malentendu.
Vous ne comprenez pas bien. Je ne sais pas comment mes pièces devraient être jouées et ce n'est pas mon boulot. Mais ce que je peux faire, c'est décrire la logique de la situation.
Si,
quand je mets en scène mes pièces, je ne fais que poser des questions. Je passe mon temps à poser des questions. Et donc, c'est ce mot « site » dont... Je crois que le site est plus important que le personnage, maintenant.
Et
c'est parce que nous vivons dans des situations si extrêmes. Le site des situations devient plus important. Mais quand on évite la logique de la situation, quand on la contourne, les problèmes apparaissent. Je crois que la logique, c'est ouvrir une porte. Et quand on a passé ce seuil, on peut aller n'importe où. Et à ce moment-là, moi, je deviens le public, le spectateur. C'est le spectacle qui m'emmène là-bas, c'est l'acteur qui choisit.
Jean-Pierre Vincent.
Oui, moi, je pense que...
11 débardeurs, ce sera à partir du 1er octobre jusqu'au 25 octobre, et puis du 4 au 27 novembre à la Maison du Geste et de l'Image et en tournée dans l'Académie de Créteil
only.
Et Versailles. For Children
Only. Non, je crois que ce débat, je sens qu'il ne porte pas sur moi. Je suis un type de metteur en scène qui essaye à chaque instant de scruter quelle est la proposition précise du poète, son énergie, la façon dont il découpe le monde, à la grande différence du poète d'à côté, d'essayer de comprendre et de transmettre aux acteurs, au public, ou avec les acteurs, au public, l'objet même qui a été pensé, rêvé. Je fais ça quand je fais Molière, je fais ça quand je monte Edouard Bond ou Jean-Luc Lagarce. Bon. Et ma passion dans ce métier, c'est de changer de peau en étant totalement investi dans la pensée du poète que je monte. Bon. De m'identifier, d'essayer de m'identifier. J'ai eu une aventure déjà par rapport à Edouard Bond, puisque j'avais monté les pièces de guerre avec l'école régionale d'acteurs de Cannes, et j'avais mis Edouard Bond en fureur parce que j'avais mis de la musique.
Ah, on en parle. La musique.
Un petit peu.
Oui, c'est pas moi qui ai pris parce que je n'étais pas là le soir où il a vu le spectacle. Mais celui qui a pris s'en souvient.
Oui, ça doit être quelque chose. Oui, ben ça, je vous fais confiance. Oui. En lui, fais confiance. Oui.
Et non, mais j'ai compris, évidemment, radicalement, quel était son point de vue. Et je ne mettrai plus jamais de musique dans une pièce d'Edouard Bond.
Pas un mot sur la musique, sur, je sais pas, presque 400 pages.
On a cherché pourtant.
On a cherché, hein.
Non, parce que j'avais affaire, avec les pièces de guerre, à trois pièces. Trois pièces écrites sur la même pensée, extrêmement ferme, mais dans des styles ou dans des prises différentes entre le style et la réalité, disons. Je sentais que dans Tin Can People, la deuxième pièce, il y avait quelque chose dans le style d'une critique de Hollywood, par exemple, d'une vaste histoire qui se passe dans le désert atomique, avec des sentiments, avec etc. Et j'avais mis une musique post-hollywoodienne, ou pré-hollywoodienne, puisque c'était du Sibelius. J'avais mis une musique comme il y a dans les films où on prétend parler de cette question. Et il y avait une différence entre le jeu des acteurs et cette musique. Bon. Mais j'aurais très bien pu le faire sans musique. C'est vrai.
Oui, mais c'est votre travail à vous, c'est votre travail de créateur à vous.
Non, mais comment vous comprenez? Non, non.
Oui, il veut vous interrompre. Alors, Edouard Bond.
J'étais assis vraiment très heureux, ébloui. C'était très magnifiquement mis en scène et joué. C'était tout à fait juste. Et soudain, il y a eu cette musique.
Oh no, I think, no, I want to listen
bloody
to the
music.
Bloody, j'ai pas traduit cette putain de musique, si vous voulez.
I want to listen to the actors. I want
et j'ai dit, je veux écouter les acteurs, je veux voir les, regarder les acteurs.
But there is a song in.
Mais il y a une chanson dans.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Donc il y a des endroits appropriés pour mettre de la musique.
But it's like it becomes. There was no need for it there, and should bad actors.
Il n'était pas utile.
Tend to use music to sort of.
Et les mauvais acteurs parfois utilisent la musique pour attaquer le public ou pour l'écraser.
Quand vous dites qu'il y a des endroits,
oui, bien sûr, je suis d'accord.
Quand vous dites qu'il y a des endroits où la musique est appropriée, ça voudrait quand même dire que c'est l'auteur qui décide les endroits où il peut y avoir musique. Il y a quand même une sorte de, je dirais, de dictée de l'auteur sur le metteur en scène, comme si le metteur en scène écrivait sous la dictée du dramaturge. Enfin, c'est une question que je pose
à Edward Bond
et à Jean-Pierre Vincent.
Oui, moi je veux répondre le premier. Je crois qu'il faut en finir. Enfin, moi, j'ai envie d'en finir parce que il y a des escroqueries et tout ça. Il faut en finir avec l'histoire du metteur en scène créateur. Je crois que le metteur en scène ne doit pas être créateur. Qu'il soit créatif, qu'il soit un instrument, un interprète, un passeur de la façon dont le poète a conçu son rapport avec le monde.
Oui, mais il a son point de vue. Vous ne pouvez pas nier le point de vue, forcément.
J'ai un point de vue.
Bien sûr que Jean-Pierre Vincent, oui, vous en
non,
pas.
Ça ne m'empêche pas d'avoir un point de vue. Mais de pièce en pièce.
Et si de votre point de vue, c'est bien qu'il y a de la musique
attendez.
Vous avez le droit.
Non. De pièce en pièce, j'aborde des textes qui améliorent mon point de vue. Je n'aborde que des textes qui améliorent mon point de vue, qui m'augmentent en termes d'imagination. Et pas d'imaginaire et de fantaisie, d'imagination du monde, d'un discours sur le monde. Il se trouve que je ne monte pas un seul auteur, j'en monte plusieurs. Et il constitue un continent pour moi, qui est toujours en mouvement, comme tous les continents. Mais je ne suis pas pour le moins, je ne suis pas, je ne suis pas dépourvu de créativité, parce que je ne me dis pas créateur. Je suis un interprète. Je dois créer dans le sens d'énergie du sens, l'énergie du sens développée par Shakespeare ou Eschyle ou Bond ou Lagarce, etc. C'est pas contradictoire être un interprète et être créatif. Je dois choisir le site à chaque scène. Les acteurs doivent choisir le site. Nous devons en parler ensemble. Où est l'endroit de l'énergie du centre d'une scène? C'est déjà
c'est ça, site,
un travail
hein.
Créatif.
C'est un des termes
énorme.
De bande important. C'est ça le site. Hein.
Oui.
Définir le site, hein, pour plus oui. Bien préciser.
Well, I think that this is one of these things that can produce misunderstanding.
Je crois que tout ça peut en effet soulever des malentendus.
I don't think it's true that the if that's what we were saying that the director is not creative.
Si nous disions que le metteur en scène n'est pas créateur ou créatif, ce n'est pas
ça.
Le metteur en scène doit être aussi créatif que l'auteur.
And equally creative.
Créateur et
equally
également créateur.
I insist, I do not know how.
Encore une fois, j'insiste, je ne sais pas comment on doit jouer mes pièces.
The problem is that.
Interpréter.
Nowadays, directors, partly because of film and television and so on, tend to use music.
À cause de la télévision, du cinéma, les metteurs en scène utilisent de la musique alors ils devraient faire autre chose. Qui est de comprendre la situation vraiment.
For me, it's like this. Look, you write 2 + 2 = 4.
Par exemple, écrivez 2 + 2 = 4.
And the director turns 1-2 upside down.
Et le metteur en scène va renverser un des deux.
And that's music.
Et voilà, ça c'est la musique.
And I say, no, you've just, it's still 4 and you've just confused.
Et je dis non, non, ça fait toujours 4 et vous avez simplement ajouté de la confusion dans l'esprit du public.
If I may be really nasty,
si je peux être vraiment méchant ou
they use music at Auschwitz.
Ils utilisaient de la musique à Auschwitz. Jouaient de la musique à Auschwitz.
There is a proper use for music.
Il y a une utilisation appropriée de la musique.
We don't need it.
Mais peut-être qu'en ce moment, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin d'autre chose.
En tout cas, vous n'en dites pas un mot. Hein, dans, il me semble bien hein, d'avoir lu une première fois et revu. Vous ne parlez pas de musique.
That's because I've worked with composers.
Ça, c'est parce que j'ai travaillé avec des compositeurs.
Ah, voilà, tout s'explique. Ouais, tout s'explique. C'est de la vengeance pure. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Lord Bond, rassurez-nous. C'est un peu de mauvaise foi, rassurez-nous. Donc.
Une certaine amitié, non?
C'était une collection. Ce livre est une collection d'essais, de textes. Je soupçonne, hein, je suis plein de suspicions à propos de la musique. Je trouve la musique suspecte.
Should be seen and not heard.
Je crois que la musique devrait être vue et pas entendue.
Est-ce que c'est un point de vue qui pourrait rejoindre quand même, après tout, le point de vue d'un grand cinéaste? Excusez-nous de parler de cinéma comme ça tout d'un coup, Edward Bond, mais qui était au fond Robert Bresson, qui considérait qu'il pouvait y avoir de la musique si elle sortait, par exemple, du site, c'est-à-dire de la scène, et qu'elle se justifiait. C'est-à-dire, on allume un poste de radio, quelqu'un siffle, quelqu'un chante. Est-ce que là, la musique est possible dans votre théâtre? Puisqu'il me semble bien que les enfants chantent, si je me souviens bien.
J'ai écrit des comédies musicales et même des opéras. Des livrets d'opéra, des livrets de ballet. Je sais qu'on me trompe, qu'on me dupe. Quand on joue de la musique et que j'ai besoin d'entendre ce que disent les acteurs, le langage est une forme de musique et je ne parle pas de jolies voix. La logique du langage est musicale.
Il y a des éléments à entendre qui sont de la musique, du son. Peu importe, dans les pièces d'Edward Bond. Un livre qui tombe, un couteau qui tombe, un intercom qui crachote indéfiniment pendant que des soldats sont en reconnaissance et qu'il fait... C'est de la musique. C'est la musique autour de la parole de la vie. Il y a des éléments sensoriels autour de la parole. Et la parole elle-même est une sorte de musique, non pas parce qu'il faut jouer musical, il y a la musique du sens.
Jean-Pierre a tout à fait raison.
Edward Bond.
Parce que c'est vrai que j'utilise des sons, des bruits très précisément, et ce sont des sons très spécifiques.
Et
très souvent, ils sont d'une importance énorme. Dans les pièces de guerre, les pièces de guerre se terminent par un son.
Something being dropped on the
quelque
ground.
Chose qui tombe par terre.
And so sounds are of immense importance, and they're more important to me, I think, than they are even to Chekhov.
Ont une importance encore plus immense que chez Chekhov.
If there's music, it interferes with the structure of sound.
Dès qu'il y a musique, ça interfère avec cette structure du son.
And very often I take one sound and another sound, and later I put the two sounds together.
Parfois, je prends un son, ensuite un autre, et parfois je les réunis un peu plus tard.
Alors Jean-Pierre Vincent, deux mots tout de même, leur film est de 11 débardeurs et par rapport à ce que Edward Bond souhaite faire dans son théâtre, pour son théâtre, c'est-à-dire de travailler avec les enfants et que les enfants régénèrent, le mot peut-être est un peu simple, un peu bête, mais que les enfants s'approprient quelque chose de l'ordre du théâtre que lui soumet comme ça, comme un médiateur avec vous. Mmh. Créatif ou créateur, metteur en scène. Alors c'est 11 débardeurs, c'est-à-dire que ça suit les enfants ou est-ce que c'est encore autre chose par rapport à la pièce Les Enfants même?
Je ne suis pas assez dans Les Enfants pour le dire. Quand je travaille une pièce, je suis dans la pièce. Il peut m'arriver de lire les autres pièces autour, mais j'essaye d'être sur cette île comme Robinson Crusoe. C'est une île pour moi et elle a ses lois. Et j'essaye de comprendre les lois strictes de cette île. Alors, je ne suis pas du coup un spécialiste universitaire d'Edward Bond. J'ai cet objet dans les mains, je dois raconter l'histoire d'un enfant qui devient un homme à travers un certain nombre de péripéties paradoxales, étonnantes, choquantes, mais dont le choc doit développer appeler l'imagination et le débat. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de monter cette pièce, j'ai décidé de monter cette pièce le 21 avril 2002. Je la connaissais avant. Mais ce soir-là, je me suis dit, si pendant les quelques années qui viennent, je ne fais pas un certain nombre de spectacles en dehors de la salle de théâtre pour me placer autrement par rapport à la production artistique, je pourrais toujours me plaindre dans 5 ans. Je n'aurais pas fait ce que je dois. Et ce que je dois est un plaisir. Alors, je pars pour une aventure. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne suis pas un spécialiste du théâtre pour enfants. J'ai fait des stages avec des jeunes gens. J'ai fait des stages avec des professeurs qui ont un rapport avec eux dans l'enseignement. Je viens d'en faire un pendant 2 jours, là. Samedi, dimanche, j'ai passé tout mon week-end avec 20 professeurs à travailler sur les 2 premières scènes de Rouge, Noir et Ignorant.
D'Edward Bond.
Le début des pièces de guerre. Mais je ne suis pas un spécialiste. Je fais ça pour pouvoir dire, grâce à la pièce, un certain nombre de choses aux jeunes gens. Mais comme il y a forcément un débat après la pièce, je fais ce spectacle pour apprendre quelque chose pendant les débats. Je vais des fois avoir des surprises mortelles, sûrement. Mais ça va m'avertir, ça va modifier ma vie. Voilà.
Oui, d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai vécu sur les enfants. Juste pour répondre à votre question, les enfants...
Jérôme Kane, c'est bien que vous parliez en votre nom propre. Je comptais le faire, mais...
Changer de casquette, là.
Voilà. Très différente de celle que traduit que met en scène Jean-Pierre.
Ben, c'est
de
la traduction, oui.
Oui, tout à fait. Les enfants est destiné à être joué par les enfants, tandis que là, Jean-Pierre va présenter la pièce et ensuite, en effet, susciter des débats. Et c'est vrai que pour l'avoir fait à Alfortville, puisque Christian Benedetti a aussi monté la pièce, c'était très intéressant la manière dont les jeunes parlaient de ce qu'ils avaient vu. Donc voilà la différence.
Il faut faire en sorte que les professeurs ne parlent pas pendant la première demi-heure du débat.
C'est très difficile.
Redonner la parole aux enfants. Même s'il y a 10 minutes de silence.
Très compliqué à faire, ça, oui.
Bruno Tackels.
Oui, ce qui est intéressant au fond dans ce débat, c'est qu'on a l'écrivain et le metteur en scène, et puis on a des pièces de théâtre et on a un essai, une série d'essais théoriques. Moi, ce qui m'intéresse quand même, sans vouloir dire que la théorie doit être vérifiée par les pièces et qu'il y aurait une sorte comme ça d'application nécessaire de la théorie dans les pièces, ça m'intéresse quand même de réfléchir sur une énorme idée autour de laquelle d'ailleurs on tourne depuis tout à l'heure.
Je sens que vous allez parler d'E.T. Voilà,
Il faut préciser
ce que c'est que E.T.
Alors E.T., c'est l'événement de théâtre. L'événement de théâtre. Edward Bond dit de l'événement de théâtre qu'il n'est ni une expérience sensorielle, ni une réflexion rationnellement distanciée, donc voilà vers Brecht. Sans l'expérience sensorielle, le centre disparaît, sans rationalité, il s'effondre, mais l'E.T., l'événement de théâtre, ne se réduit pas à la présence des deux, il est ce qui s'effectue entre elles deux. Alors j'ai envie de demander à Jean-Pierre Vincent, et puis on pourrait réfléchir aussi sur la pièce qu'a montée Alain Françon, si ce n'est toi. Quelle est là, je dirais, presque concrètement, enfin factuellement,
Alain Françon, je sera chez Nicolas de Morand lundi matin prochain.
Qui pourra lui demander quel est l'événement de théâtre, qui n'est évidemment pas le thème, qui n'est pas le plot, mais qui est quoi alors dans cette pièce 11 débardeurs, Jean-Pierre Vincent?
Ah ben il y en a plusieurs des événements de théâtre, mais... Speak.
Edward Bond.
Well, I have to, because the problem actually is stated by Euripides. You cannot speak sense to a madman.
Est formulé par Euripides. Yeah. On ne peut pas dire des choses raisonnables à un fou. Et on ne peut pas le raisonner un fou. On ne peut pas raisonner
believe,
un fou.
To believe a lie is to be mad.
To believe
a lie is to be mad.
Ah oui, croire un mensonge, c'est être fou. Yeah. Parce qu'après, on agit.
And so societies are by and large mad.
Donc les sociétés sont pour la plupart folles.
So you have to have a concept of social madness.
Donc il faut ce concept qui apparaît de la folie sociale.
No, I think you can take any moment in any scene you choose.
On peut prendre n'importe quel moment dans n'importe quelle scène.
Or the actor will choose.
Ou que l'acteur choisira, ou que le metteur en scène peut choisir.
And can say, look, this is a critical moment.
Et dire voilà un instant critique.
Yeah.
Et je dois le montrer, le révéler. Et les gens pensent que peut-être qu'il se passe telle chose, mais ce qui se passe vraiment, c'est ça.
And then you can think of ways of showing what is really happening.
Et on peut inventer des manières de montrer ce qui se passe vraiment.
This is different from Brecht's alienation effect.
Et ce qui nous, ce qui est différent de la distanciation brechtienne.
Taking the empathy out of it.
Ce qui veut dire enlever la distance, l'empathie qu'il y a dans les choses.
A theater event can be aggressive.
Un événement de théâtre peut être agressif.
Instead of kissing somebody's hand, you might bite it.
Au lieu d'embrasser la main de quelqu'un, vous pourriez peut-être la mordre.
I think it always has to relate to reality so people can recognize it.
Il faut toujours soit en rapport avec la réalité pour que les gens puissent le reconnaître.
But they need to say, this is not what I thought it was.
Il faut qu'ils puissent dire, ce n'est pas ce que je croyais que c'était.
And then I think that approach creates a different style of acting. I think
cette approche va créer une nouvelle forme de jeu de l'acteur.
It is only a device to use.
Mais ce n'est qu'un procédé à utiliser.
Et chacun l'utilise différemment. Je crois que si on a un rapport, je pense qu'on a un rapport aussi sincère avec l'écriture de Bond, Christian Benedetti, Alain Françon, moi, et qu'on le fait à partir de sensations légèrement différentes des concepts. Il nous arrive dans un itinéraire de vie. Hein? Alors là, déjà, j'en ai retiré la musique de l'événement théâtre. Plus d'événement théâtre par la musique.
Ça, oui.
Mais par exemple,
il faut apprendre à faire de nouveau confiance au théâtre. Il le dit, là très simplement dans la trame cachée. Apprendre à faire confiance de nouveau au théâtre, tout simplement.
Mais moi, le pétrole qui me fait marcher en ce moment là, ces jours-ci de répétition, c'est surtout la notion de centre et la notion de temps accident. Alors la notion de temps accident, c'est génial.
Ouais. Mais on va renvoyer au livre parce qu'il ne nous reste pas assez de temps pour faire le temps accident. Il faut bien que les auditeurs le lisent, ce livre, Edward Bond. Parce que moi, excusez-moi, Jean-Pierre Vincent, vous allez me trouver d'une futilité crasse, mais enfin.
Oui, évidemment que je vous trouve d'une futilité crasse.
Ben oui, parce que si vous avez bien lu La Trame Cachée, vous aurez vu quand même que aux alentours des pages 155, quand on lit le texte d'Edward Bond, il y a des points de suspension et on comprend tout d'un coup que, enfin, on découvre en note de bas de page que les pages sont rongées, puis qu'il y a des marques de dents, comme une espèce de didascalie dans ce texte. Et puis enfin, on comprend en page 157 que l'auteur mange son carnet. Vous allez bien, Edward Bond?
That was Shakespeare.
C'était Shakespeare. Non. C'est le dernier carnet de William Shakespeare dont vous parlez.
Alors, puisque vous êtes là avec Jean-Pierre Vincent et votre livre, l'édition originale anglaise de votre livre, Edward Bond, vous voulez bien lire un poème, mais alors peut-être on va l'écouter d'abord en français et lu ensuite en anglais par Edward Bond, ou vous préférez l'inverse? Dans quel sens préfère-t-il, écoutez, en étant direct, d'abord qu'on comprenne de quoi il s'agit?
I'm merely the writer.
Je ne suis que l'écrivain, c'est vous le metteur en scène de cette émission.
Alors on va commencer par le français et ensuite vous lirez le texte en anglais comme ça.
From where do you begin?
From the beginning? Where do you start?
Euripides.
Vous pouvez...
C'est un poème écrit pour l'ouverture du Théâtre de la Cité à Toulouse.
Sympa.
Qui a été inauguré avec une pièce de Bond qui s'appelle La Mer.
Je lis. Euripide a connu l'exil et le théâtre de Dionysos est en ruine. Shakespeare s'est mis à boire et son théâtre a été démoli. Molière a été persécuté et les théâtres royaux de France sont vides. Et en notre temps, auteurs et autres artisans de théâtre ont été fusillés, emprisonnés, exilés et réduits au silence. Mais ce qui a d'abord été dit sur leur scène est toujours dit dans nos maisons et nos lieux publics. La scène est une empreinte de pied faite par l'histoire. Sur elle sont élevées cuisines, écoles, temples, maisons de fous, tribunaux et cellules. Les cités et leurs terres, où rois et mendiants en loque se tiennent dans l'ombre les uns les autres. Les oracles cherchent des réponses. Et la démocratie porte à tour de rôle les masques tragiques et comiques. Elle n'a pleuré qu'une fois, il y a longtemps, mais deux des larmes restent sur ses joues. L'avenir est incertain. Le théâtre est la maison des otages.
Nous y allons pour défendre nos vies, n'en doutez jamais. Honorez la cité qui fonde un théâtre. Sur ces scènes, dites ce qu'on vous interdit de dire quand les temps sont obscurs.
Euripides went into exile and the theater of Dionysus is ruined. Shakespeare took to drink and his theater was pulled down. Molière was persecuted and the royal theaters of France are empty. And in our time, playwrights and others who work in theaters have been shot, imprisoned, exiled and silenced. But what was first said on their stages is still said in our houses and public places. The stage is a footprint made by history, on which are raised kitchens, schools, temples, madhouses, courts and cells, cities and their lands, where kings and ragged beggars stand in each other's shadows, oracles seek for answers, and democracy wears the tragic and comic masks turn and turn about. Democracy cried only once, long ago, but two of the tears stay on her cheeks. The future is uncertain. Theatre is the house of hostages. We go there to fight for our lives, never doubt it. Honour the city that founds a theatre. On its stages, say what you are forbidden to say when the times are dark.
Merci Edouard Bond. Et ce texte qui était justement destiné à être lu pour l'ouverture d'un théâtre à Toulouse, qu'il soit d'ailleurs médité à Toulouse en l'occurrence, surtout la fin, entre autres en ce moment, il est parmi les textes que publient les éditions de l'Arche, La Trame Cachée, dont je voudrais dire le sous-titre, parce qu'au fond il a toujours été question de cela, il est toujours question de cela avec, et souvent de cela avec Edouard Bond, et notamment dans le travail qui est fait avec les enfants, autour des enfants, avec les enfants, que ce soit dans la pièce même, les enfants ou 11 débardeurs, c'est que le sous-titre de ce livre s'appelle de la trame cachée s'appelle Notes sur le théâtre et l'État, et qu'il y ait question évidemment souvent de démocratie et de la nécessité du théâtre pour la démocratie. Sans le théâtre, je vous cite encore brièvement Edouard Bond, écrivez-vous, sans le théâtre, le monde serait seul. Mais je voudrais, pour terminer, et puis vous remercier infiniment Jérôme Hankins d'avoir traduit ses propos comme cela d'Edouard Bond au Débeauté. Il faut dire que vous êtes le traducteur d'Edouard Bond, et pas seulement, avec Georges Bas et Séverine Magois pour les éditions de l'Arche. Mais j'aimerais, avec vous aussi, peut-être, et ça continue de parler de Bond, que vous nous disiez un petit peu, au fond, ça ne doit pas être si facile, là vous faites ça avec une facilité évidemment déconcertante, mais ça ne doit pas être si facile que ça, parce que Bond, autant dans les pièces, dans l'écriture même de ses fictions, invente des syntaxes, des mots, enlève des lettres, joue avec des choses qui concernent même l'organe et la langue. On a l'impression que parfois la langue de l'acteur doit se muscler autrement pour dire les textes de Bond. Comment on la traduit, cette langue-là? Il y a tout un glossaire où vous faites attention de revenir sur les thèmes qu'on a un peu abordés déjà pendant cette heure et demie avec Bond.
C'est un travail colossal, il faut dire. Je salue mes deux autres co-traducteurs, ça fait 2 ans et je suis très ému. Merci de nous accueillir pour parler de ce livre, parce que on a mis beaucoup de temps, ça a été énorme comme travail de le comprendre, de le décortiquer, de demander à Bond ce qu'il voulait dire. Je peux dire qu'on ne sait pas encore nous-mêmes, les traducteurs, exactement ce que tout veut dire, mais je crois que ce livre est une aventure. Donc ça a été une aventure de traduction et ce sera une aventure pour le lecteur. Et pour ce qui est du glossaire, qui a été beaucoup rédigé par Georges Bas, on a essayé de donner au lecteur. Nous sommes dans la position qu'il y a eu pour Brecht, c'est-à-dire que Brecht avait forgé des termes techniques comme Verfremdungseffekt, et il a fallu que ceux qui traduisait Brecht à un moment disent bon, choisissons une traduction, elle est peut-être pas très bonne. D'ailleurs encore l'autre jour j'ai entendu des gens dire, Philippe Hivernel dire, c'est pas une bonne traduction, mais au moins ça nous permet de nous comprendre. Donc nous sommes à un stade où l'écriture théorique de Bond est énorme, tout n'est pas traduit et il fallait quand même qu'il y ait presque une sorte de consensus de traduction. Mais comme vous avez vu dans le glossaire, on est obligé de dire parfois on peut pas toujours traduire de la même manière.
Alors il y a un mot par exemple là qui est compliqué, c'est le nothingness.
Le néant.
Néant, c'est pas exactement nothingness.
Exactement. Et le pire, c'est théâtre. Drama est intraduisible. Donc j'ai été obligé, j'ai écrit une longue note de 4 pages pour expliquer que ça voulait dire d'une phrase à l'autre des choses extrêmement différentes. Ça pouvait vouloir dire le théâtre, mais aussi cette structure dramatique de l'esprit. Donc si vous voulez, on est à un stade très étrange d'une immense œuvre théorique qu'on essaye de donner aux lecteurs français. Ce livre est un panorama qui permet de voir ce qui a été écrit et ce qui va être écrit, puisque Bond prépare un traité sur l'acteur qui va être, je crois, très important et qui fait la synthèse entre Stanislavski et Brecht. Donc on est vraiment à un stade, c'est une aventure ce livre. pour entrer, plonger, je crois qu'il faut plonger dans la pensée de Bond, et c'est ce qu'on a essayé de faire en tant que traducteur, et on a souffert.
Bon, bah écoutez, puisque vous connaissez maintenant le chemin, Edward Bond, vous reviendrez cette fois pour nous parler du traité de l'acteur, pendant une heure et demie, sur France Culture, à Tout Arrive. Vous voyez, pas de cigarette aujourd'hui.
It's a promise.
C'est une promesse.
Well, I don't know. It's not written yet.
Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore écrit, ce traité de l'acteur.
Ah bah écoutez, bon, alors il faut vous y mettre. Merci. Merci infiniment, Edward Bond. Et puis merci pour ce très beau livre où il y a aussi quelque chose de très émouvant. C'est le Bond petit enfant qui rend hommage à sa mère, qui nettoie les escaliers avant même d'accoucher pour que la sage-femme trouve le lieu propre dans cet endroit où l'on n'était pas très fortuné. Mais tout cela, il faut le lire. Edward Bond, le livre La Trame Cachée, traduit de l'anglais par Georges Bass, Jérôme Hankins. Merci Jérôme Hankins. Et publié à l'Arche éditeur, à l'Arche où sont également publiés en un volume les textes de trois pièces d'Edward Bond, Si ce n'est toi, suivi de Chaise et suivi de Existence. Au Théâtre de la Colline, Si ce n'est toi est mise en scène par Alain Françon avec Dominique Valadier, Abès Zamani et Luc-Antoine Diqueros. C'est jusqu'au 9 octobre. Et puis 11 débardeurs, mise en scène par Jean-Pierre Vincent. Ce sera du 5 octobre au 25 novembre. Enfin, le livre de Jacques Pyramette, qui restait silencieux. Vous avez tout écouté, Jacques Pyramette.
Oui, mais ça me faisait penser à ce moment, vous savez, on parle du théâtre, de la musique, où on en avait marre d'entendre les néo-romantiques du 19e siècle, et puis est arrivé un monsieur qui s'appelait Berg. On a entendu autre chose. Avec Bond, il y a un peu de ça. D'un seul coup, on a entendu autre chose.
C'était Edward Bond, Le Retour, un numéro de Tout arrive de Marc Voinchet avec Jérôme Hankins, Jean-Pierre Vincent, Jacques Pyramette, Bruno Tackels et Edward Bond, réalisé par Doria Zénine et diffusé pour la première fois le 22 septembre 2003 sur France Culture.